Radio Okapi. Le journal, présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Retrait du Rwanda de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le porte-parole du gouvernement congolais s'exprime. Patrick Muyaya note que la position du Rwanda est cohérente vis-à-vis des différents textes qui régissent la CEAC, comme l'inviolabilité des frontières des pays membres. Autre réaction dans ce journal, celle de l'UNPC à la suite de la position du CESAC interdisant la médiatisation des activités de l'ancien président Joseph Kabila et de son parti le PPRD. Le président national de l'UNPC, Kamandawa Kamanda Muzembe, exprime son émoi à la suite de cette décision. L'invité de ce matin est M. Godefroy Kaleba Kangela. Il vient de tenir une conférence à Bunia sur la reconstruction d'un véritable état de droit en RDC. Mais comment y parvenir? Réponse avec ce juriste de formation. C'est vers la fin de ce journal. Encore une fois, bonjour. Retrait du Rwanda de la communauté économique des États d'Afrique centrale avec cette réaction du porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Muyaya estime que la position du Rwanda est cohérente vis-à-vis des différents textes qui régissent la CEAC, entre autres l'inviolabilité des frontières des pays membres. Pour lui, le pays de Kagame a excellé dans la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. De ce fait, il pense que cet exemple devrait inspirer d'autres institutions régionales. Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, le dit au micro de Blaise Shindani Kambala.
Le Rwanda devrait être cohérent de lui-même vis-à-vis de ses actions. La CEAC, comme les autres organisations régionales, sont régies par des chartes. Et je pense que l'un des points principaux, c'est le respect et l'inviolabilité des frontières des pays qui sont membres. Et le Rwanda a excellé de ce point de vue dans la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la CEAC avait déjà préalablement condamné les activités du Rwanda avec son supplétif sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et donc la position qu'elle a prise, elle est cohérente vis-à-vis aux différents textes qui régissent cette organisation. Et nous pensons que cet exemple devrait inspirer les autres institutions régionales parce qu'elle permettra à terme de les renforcer, parce qu'elles peuvent être en mesure de tirer les conséquences lorsqu'un État membre viole délibérément les principes fondamentaux qui régissent ces organisations.
Mais posons-nous quand même cette question. Qu'est-ce qui a poussé le Rwanda à prendre la décision de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale? Réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
La conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le CEAC, a prolongé samedi d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à la présidence tournante de cette organisation sous-régionale au terme de la 26e session ordinaire de la CEAC tenue samedi à Malabo, capitale du pays, selon le communiqué officiel. En réaction, le Rwanda a décidé, selon un communiqué officiel relayé dimanche par des médias internationaux, de quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, après que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale a pris la résolution samedi à Malabo de prolonger d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à sa présidence tournante. Le Rwanda dénonce l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. En conséquence, le Rwanda ne voit aucune justification pour demeurer au sein d'une organisation dont le fonctionnement actuel va à l'encontre de ses propres principes fondateurs, a-t-on lu dans les communiqués du ministère rwandais des Affaires étrangères.
Entre-temps, une nouvelle tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali est en train de germer alors que les négociations de paix dans l'est de la RDC peinent à avancer. Dites-nous, Martial Papimukeba, où en est-on avec les différents processus de négociations envisagés pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC?
Dans le cadre du processus de Washington, un projet d'accord révisé tenant compte des attentes de Kinshasa et Kigali est entre les mains des deux parties. Selon nos sources, des experts rwandais et congolais sont attendus à Washington cette semaine pour discuter d'un document commun en vue d'une rencontre de validation entre les ministres des Affaires étrangères. Des étapes cruciales avant d'envisager la signature d'un accord de paix entre les présidents Tshisekedi et Kagame, disent nos sources. À Doha, où le gouvernement congolais et l'AFC M23 discutent sous médiation qatari, aucun progrès notable n'a été enregistré après 32 jours de discussion lors du second round. La délégation rebelle a même quitté Doha il y a 5 jours pour regagner Goma. Cependant, selon nos sources, les pourparlers devraient reprendre prochainement en fait probablement d'aborder les causes profondes du conflit et d'examiner la proposition remise par la médiation qatari à condition que la question des préalables soit vidé par les deux parties. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Pour boucler ce chapitre, nous nous tournons vers le Vatican. Le pape Léon XIV appelle le monde à invoquer l'Esprit Saint afin qu'il ouvre les frontières intérieures dans les relations entre les peuples et qu'il abatte les murs et dissolve la haine loin des préjugés et des logiques d'exclusion politique ou guerrière. Le souverain pontife l'a dit hier dimanche lors de la messe de la fête chrétienne de la Pentecôte célébrée au Vatican en Italie. On écoute un extrait de son homélie dans cette extrait proposé par Alain Hirong.
C'est précisément en célébrant la Pentecôte que le pape François a fait remarquer qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de discordes, beaucoup de divisions. Nous sommes tous reliés et pourtant, nous trouvons déconnectés les uns des autres, anesthésiés par l'indifférence et opprimés par la solitude. Les guerres qui agitent notre planète sont un signe tragique de tout cela. Invoquons l'esprit d'amour et de paix afin qu'il ouvre les frontières, abatte les murs, dissolve la haine et nous aide à vivre comme des enfants du seul Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, c'est la Pentecôte qui renouvelle l'Église, qui renouvelle le monde. Que le vin puissant de l'Esprit vienne sur nous et en nous, ouvre les frontières de notre cœur, nous donne la grâce de la rencontre avec Dieu, élargissent les horizons de l'amour et soutiennent nos efforts pour construire un monde où règne la paix.
L'actualité, c'est aussi cette position de l'Union nationale de la presse du Congo qui dit avoir suivi avec le plus grand émoi la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Mesure portant suspension à titre conservatoire de la médiatisation des activités du parti politique PPRD et de ses membres pour une durée de 90 jours sur toute l'étendue de la RDC. Dans un communiqué publié vendredi dernier à Kinshasa et signé par son président national Kamanda Wakamanda Muzembe, l'UNPC appelle les journalistes congolais à la retenue et à la sérénité face à ce qu'elle qualifie d'une dérive autoritaire, d'une régulation solitaire. D'autres détails avec vous, Grâce Hamzati.
L'UNPC dit émettre de sérieuses réserves quant à la compétence de la régulation sur l'ensemble du champ qu'elle s'est attribué. Pour cette structure des professionnels des médias, le champ d'exercice de toute régulation des médias est avant tout philosophique et il porte sur la liberté de la presse et d'expression comme socle. Le communiqué souligne que la régulation ne peut avoir pour rôle d'embrigader les médias pour empêcher les journalistes d'être la conscience critique de leur temps en tant qu'historien du présent. Le droit du public à l'information et la liberté de la presse sont garantis par la Constitution, même si l'Union admet qu'en temps de guerre, des restrictions peuvent exister et elles sont compréhensibles. Alors que les autorités du pays recherchent la cohésion nationale, pourquoi vouloir faire passer les médias et les journalistes comme des porteurs d'armes et munitions qui fauchent les milliers de compatriotes congolais dans l'est du pays ? S'interroge l'UNPC. C'est pourquoi, poursuit le communiqué, je cite, l'UNPC qui n'entend pas livrer les journalistes à la furie d'une approche maximaliste et d'une régulation solitaire, appelle le CESAC à la lucidité et au discernement pour éviter de précipiter les médias et les journalistes dans un tournant non maîtrisable. Fin de citation.
Par ailleurs, le président du CESAC a présenté le même vendredi à l'Assemblée nationale le rapport annuel de cette institution d'appui à la démocratie. À cette occasion, plusieurs députés ont dénoncé sa gestion cavalière, surtout sa mesure jugée liberticide d'interdire aux médias de couvrir les activités de l'ancien président Joseph Kabila. En réaction, Christian Bossembe rassure que le CESAC n'a jamais interdit à la presse de citer le nom de Joseph Kabila, encore moins de réfléchir sur lui. La mesure conservatoire qui sera examinée ce lundi à la plénière du CESAC consiste simplement à interdire l'apologie de la guerre, a-t-il déclaré. Autre nouvelle, béatification de Floribert Bwanachui Bin Kositi, jeune chrétien catholique de Goma, plus qu'une question des jours. Et ce sera le dimanche 15 juin prochain à Rome. Cette reconnaissance intervient 18 ans après son assassinat à Goma. Pour la petite histoire, il avait été tué pour avoir refusé de laisser entrer dans le pays des denrées alimentaires avariées. Avec cette reconnaissance, la ville de Goma aura désormais un bienheureux. Floribert Bwanachui Bin Kositi rejoint ainsi Isidore Bakanja, Marie-Clémentine Anmalité, Nengapeta et les martyrs d'Ouvira. Quelle était la vie de Floribert Bwanachui au sein de sa famille? Radio Kapi amorce une série de reportages sur Floribert Bwanachui. Voici en exclusivité le témoignage de sa mère dans cet élément que nous propose Rosalie Zawadi.
C'est un enfant qui était intelligent, oui, éloquent. Depuis sa naissance, c'était un garçon qui était poli, il nous respectait, nous, ses parents. Je voyais en lui un bon avenir.
C'est avec joie que Gertrude Camara, mère biologique de Floribert Bwanachui, parle toujours de son fils. De tous les avenirs qu'il avait imaginés pour lui, jamais elle n'aurait pensé qu'il serait un jour béatifié et reconnu comme bienheureux au sein de l'Église catholique.
J'attendais de lui un garçon qui devait se marier, avoir sa famille aussi, avoir une femme et ses enfants. Il était mort, il était encore trop jeune. Bon, ça m'a fort touchée, très touchée d'ailleurs, sa mort. J'ai demandé à ce qu'on puisse m'aider par la prière. Ce n'est que la prière qui m'a aidé, les autres qui me consolaient, tout ça. Les témoignages qui sont aujourd'hui ont atténué les douleurs que j'avais.
Le dimanche prochain, Mme Gertrude Camara sera à Rome pour assister à la béatification de son fils, Floribert Bwanachui. C'est pour elle une consolation et surtout un moment d'action des grâces à Dieu pour la vie de son fils.
La 12e conférence des gouverneurs est prévue à Colusi dans le Lualaba du 10 au 13 juin prochain. En marge de la tenue de cette grande rencontre, la Commission nationale des droits de l'homme, bureau de représentation du Lualaba, salue l'amélioration des droits de l'homme, notamment dans la province. Toutefois, selon le coordonnateur provincial de cette institution d'appui à la démocratie, beaucoup reste encore à faire, notamment dans le territoire et la ville de Kasaji, surtout sur le plan infrastructurel. Voilà, c'est ça. On écoute Arthur Kaboulo, joint par Jean Gando.
Les exploitants artisanaux, leurs effectifs sont maîtrisés aujourd'hui par le ministère des tutelles. Ils ont encore besoin des zones artisanales viables pour encore améliorer leur secteur. Il y a l'influence de certaines personnes qui se disent du pouvoir, qui viennent de fois perturber l'autre dans ce secteur. Ça, c'est une interpellation. Il y a l'aspect infrastructurel. Ce secteur, il est à féliciter parce que c'est trop visible. Il y a des bâtiments publics qui s'élèvent ça et là. Il y a les routes qui sont construites. C'est mieux que ça soit fait aussi en territoire et surtout dans la ville de Kasaji. Il faut parler de l'élargissement et modernisation de la prison de Dilala. Et le grand souhait, c'est de voir aussi dans les territoires que cela soit aussi fait. Aujourd'hui, là-bas, il y a la liberté d'expression. Chacun est libre de s'exprimer dans le respect de l'autre et de la loi. L'aspect sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts dans ce secteur. Les policiers, les personnes commises à la sécurité sont équipées par Kinshasa. Il y a la dotation des moyens de locomotion pour les faciliter dans les cas d'intervention. Quand nous avons la paix, nous avons le respect des droits de l'homme.
Et puis une bouche-maille sans eau potable, et cela dure depuis bientôt une semaine. Plusieurs quartiers de la zone appelée Basse par la Régie des eaux sont en effet concernés par cette crise d'eau. Femmes ménagères ainsi que des jeunes filles et garçons sont très visibles sous les rues de la capitale diamantifère à la recherche de ce liquide précieux dans cette partie du Kasaï oriental. Le directeur régional de la Régie des eaux affirme que la demande est forte sous la ville et pour y faire face, il faut une autonomie en énergie électrique pour permettre à ces machines de fonctionner pendant beaucoup d'heures. Didier Mboudilelo souhaite que son entreprise obtienne une autonomie en énergie électrique. Il s'est ainsi exprimé au micro d'Esther Ndalafina.
La demande est forte et nous n'avons pas le moyen de mettre une deuxième bombe à Lukelenge. Nous n'avons pas non plus le moyen de fonctionner pendant plus d'heures à notre guise. Le peu que la SNEL reçoit, on se le partage. Hein. Moi, j'ai 810 kW. Je ne sais plus faire 8-7 heures à la zone haute comme avant. L'eau se vide très vite, il n'y a pas une rechange. Vraiment, c'est très délicat. Et on aura vraiment besoin de 3,8 MW qu'on n'a pas. Que pour que à la fois la station de Lukelenge ait 2-3 groupes motopompes en service, la station de Babkagawa ait 3 pompes zone haute, 3 pompes zone basse, zone moyenne à envoyer, il faut beaucoup d'énergie que nous n'avons pas. Vraiment, c'est sérieux. On essaie de faire des efforts. Dès que la zone moyenne, donc la zone de Chilumba, sera alimentée et la zone de Maréchal qu'on est en train d'essayer sera alimentée, nous allons voir nos collègues de la SN si on peut négocier une rallonge des heures, même commencer à partir de minuit pour remplir les réservoirs. Quand vous allez arriver, à la saison 16, il y a une forte demande, puisqu'il n'y a plus de pluie. Quand il pleut, il y a une frange de la population qui ne prend pas notre eau.
Actualité internationale.
En Espagne, près de 100 000 personnes, selon les organisateurs, quelques 50 000 selon la police, se sont retrouvées hier dimanche dans le centre de Madrid pour protester contre le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et demander sa démission. Le Parti populaire, parti d'opposition conservateur qui a convoqué ce grand rassemblement, maintient la tension contre l'exécutif, lequel est éclaboussé par plusieurs affaires de corruption, alors que les socialistes espèrent bien aller jusqu'au bout de leur mandat en août 2027.
L'invité.
L'invité de ce matin est M. Godefroy Kaleba Kangela. Il a tenu une conférence samedi à Bunia sur la reconstruction d'un véritable état de droit en RDC. Mais comment y parvenir? Godefroy Kaleba soutient que cette notion doit être la raison d'être de toute action politique et des citoyens congolais pour sortir le pays de la guerre, de la pauvreté et d'autres antivaleurs comme le détournement de deniers publics et la corruption. Il s'entretient ici avec Isaac Remoyope.
Monsieur Eliakim Maleba, bonjour.
Bonjour.
Vous avez abordé le thème, la notion d'intérêt général, condition sine qua non pour la construction d'un état de droit. Le concept de l'intérêt général est vaste. Selon vous, quelle est la signification de ce concept?
Ce qu'il faudra retenir, c'est la notion de l'intérêt général. C'est tout ce que veut la majorité des peuples se trouver sur un espace. L'intérêt général, c'est tout ce qui est avantagé sur l'ensemble de la population d'un pays ou d'une communauté donnée. L'intérêt général, c'est tout ce que la majorité des peuples décide de ce qui va. Tel est le cas, par exemple, au moment des élections. La majorité des peuples décide que X soit élu président. C'est cela l'intérêt général. Qui que ce soit, dans quel domaine qu'il soit, tout ce qu'on n'entre pas dans la vie englobe l'intérêt général.
Alors, quelles sont les valeurs qui fondent cette notion qui ferait défaut, selon vous, chez nos dirigeants et surtout dans le cadre politique, en Ituri, en RDC? Et pouvez-vous nous illustrer par des exemples?
La notion d'intérêt général, c'est le fondement même de toute nation. C'est la raison d'être même des gens qui sont aux affaires publiques. Et voilà. Aujourd'hui au Congo, cette notion n'a pas sa place. Conséquence logique, le Congo est dans l'abîme. Conséquence logique, le Congo n'a pas une armée à la hauteur de sa place. Elle n'a pas une police à la hauteur de sa place. Pourquoi? Parce que le Congo n'a pas de moyens. Les richesses du pays sont pillées, entre guillemets, par les hommes politiques, par les fonctionnaires de l'État, bref, par ceux qui sont aux responsabilités publiques, parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'intérêt général. Chacun ne rêve qu'à ses intérêts privés. Et du coup, ça prive l'État congolais de tout. Conséquence logique, les peuples congolais aujourd'hui traversent 64 ans de calvaire.
Alors, quels sont selon vous, les raisons qui poussent certains leaders à privilégier l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt de la population, et qu'est-ce que cela a comme conséquence dans le vécu quotidien de la population?
Les raisons sont multiples. Je peux dire que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il faut la politique. La politique, au vrai sens du terme, c'est l'art de diriger une cité. C'est un service de sacrifice. Quand les gens vont dans la politique, ils n'ont pas ces notions élémentaires-là. En conséquence, c'est logique, ils vont demain, ils volent tout, ils pensent qu'ils sont là pour les intérêts privés. En plus, je peux dire que la notion de l'intérêt général, si aujourd'hui ça fait défaut dans les chefs de concitoyens qui sont aux responsabilités publiques, c'est parce qu'ils ne veulent pas respecter la loi. L'intérêt général, c'est ça loge même dans la loi. Les textes de loi prône l'intérêt général. J'ai eu à les énumérer dans la Constitution congolaise à travers, par exemple, l'article 58 de la Constitution qui prévoit que tout Congolais doit jouir des richesses nationales et que l'État a l'obligation de les distribuer de façon équitable. Jouir de richesse nationale, ça ne veut pas dire que l'État va distribuer de l'argent à chaque personne. Non, ça veut tout simplement dire que l'État doit disponibiliser à tout le monde l'accès à des services publics, notamment les routes, les hôpitaux, les écoles. Quand vous avez vos enfants qui vont aux écoles construites par l'État, vous marchez sur des routes construites par l'État macadamisées, vous êtes tenté de jouir des richesses nationales et que donc l'État à travailler sur l'intérêt général.
Vous êtes bénéficiaire quand même de l'intérêt public parce que vous avez étudié dans une école. Nous tous, nous sommes bénéficiaires quand même de l'intérêt public.
La notion d'intérêt général, en termes de pourcentage, je dirais, en deçà même de 10%, s'il faut prendre 100%. Chez nous, au Congo, l'État donne aux populations les miettes. C'est les miettes qu'on distribue maintenant aux populations. On construit deux ou trois écoles.
Comment peut-on cultiver l'esprit de l'intérêt général pour le développement de la province? Quelles sont les recommandations, les mécanismes mis en place pour qu'on puisse remonter les pourcentages de l'intérêt général comme vous l'avez signifié que c'est à moins de 10%.
Il va falloir qu'il y ait un cours spécialisé ou spécial des notions d'intérêt général qui doit être élaboré par notre programme d'enseignement et qui doit être enseigné des maternelles jusqu'au doctorat. Ça, c'est un des mécanismes. Après l'école, chaque famille doit s'approprier la notion de l'intérêt général. Les églises doivent s'approprier la notion de l'intérêt général.
Est-ce que vous pensez que cette vulgarisation, ça suffit?
Au-delà du fait qu'on doit continuer à prêcher, toutes les autres couches de gens que j'ai citées doivent cette fois-ci ne plus continuer à croiser le bras. Doivent s'organiser pour empêcher les gens qui détournent des millions au détriment de l'État, les gens qui font venir des exploitants miniers fraudulés. Je cite un exemple ici, j'avais la jeunesse de Mwenga, province ici de Kivu, qui s'est opposée à un cortège de Chinois qui passait pour aller exploiter les minéraux. Cette jeunesse-là s'est catégoriquement opposée et pour dire que vous ne pouvez pas passer ici, aller exploiter nos minéraux alors qu'on ne sait pas à qui ça profite.
Je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Alain Irung, à Jacques-Yves Molima et à Debs Vita. Excellente journée à toutes et à tous.